Je vais vous parler de la famille normande. Alors, j'y ai consacré pas mal de temps parce que c'est pour l'habilitation à diriger des recherches. Donc, ça a été un travail assez long. Et j'ai fait un certain nombre de choix qui, évidemment, en même temps, sont autant de limites à cette enquête, mais qui me semblaient nécessaires. Hein. J'ai voulu d'abord étudier un seul lieu, un bourg, pas trop petit, de façon à avoir un échantillon quand même pas trop étriqué. Donc un bourg plutôt qu'un village, et puis un bourg dans lequel je pourrais suivre la trajectoire fiscale des habitants. Je tenais beaucoup à élargir un peu les perspectives, parce qu'à Villiers-le-Bel, je n'avais pas examiné ça, cette source fiscale, et je n'avais pas non plus beaucoup travaillé l'économie des habitants. J'avais surtout travaillé sur la famille, les mariages, la transmission des terres, mais pas beaucoup l'économie rurale. Et évidemment, la question des ressources est capitale, donc ça manquait. Donc je souhaitais, d'une façon ou d'une autre, pouvoir saisir les ressources. Donc les sources fiscales s'imposent, et il se trouve que Argens présente une liste continue de rôles de taille, sans interruption, sans lacune, qui permet, j'en montrerai quelques-unes tout à l'heure, de reconstituer des trajectoires fiscales. Donc année après année, on peut suivre les hausses, les baisses, les fluctuations d'imposition. Donc, on peut le supposer d'une façon ou d'une autre, et peut-être avec un décalage, mais également le niveau de fortune approximatif de ces habitants. Donc, c'était un angle, une source qui me permettait de suivre, d'avoir une idée des ressources et du niveau de vie des habitants. Voilà. Mais je vais commencer par un aspect qui est plus classique dans ce que j'ai fait avant, que je connais mieux, et qui est la question du rapport des habitants et des populations au mariage et à la transmission des biens et au droit, donc par quel biais, avec quels instruments et quels outils, à la fois on établit un régime entre époux et on transmet les biens d'une génération à la suivante. Bon, selon moi, ce sont les valeurs qui expliquent les usages. Les valeurs, c'est-à-dire une conception de ce qui est souhaitable dans les rapports humains, dans les rapports interindividuels. Donc c'est une approche axiologique qui donc centré sur les valeurs, mais qui ensuite devient très technique quand il s'agit de voir quel est le degré de contrainte qu'exerce le droit. Bien sûr, on peut toujours objecter que les personnes agissent sous la contrainte, en fonction de règles juridiques. Donc là, évidemment, il fallait une étude au microscope pour saisir le degré de liberté des acteurs vis-à-vis du droit, donc voir ce que, par rapport aux contraintes juridiques, ils étaient en mesure et libre de faire, donc, susceptible donc d'agir ensuite selon leurs valeurs. Donc pour établir l'existence des usages, on doit partir des actes de la pratique et voir comment ça s'articule aux normes savantes. Alors il y a deux erreurs quand on travaille sur le régime matrimonial et le régime successoral. Il y a deux erreurs qu'on commet souvent en abordant cette source, pourtant maintenant très familière à beaucoup d'historiens, que sont les contrat de mariage. La première erreur, c'est de prendre certaines clauses des contrats de mariage et puis de faire un peu de piocher. On prend dans les contrats ce qui nous intéresse et on néglige les autres clauses. On trouve ça souvent. Alors une fois, c'est la dot, une fois, c'est la clause de viduité, ou bien encore une autre clause, mais on fait un peu ses courses et on prend une clause en négligeant les autres. Et il y a une seconde erreur qui est de considérer le contrat de mariage comme le moyen d'établir un ménage, sans penser qu'un contrat de mariage, c'est également un acte qui comprend tout un volet successoral. Donc le but n'est pas uniquement de permettre l'établissement d'un nouveau couple, c'est aussi déjà d'organiser une succession. Il y a le droit matrimonial et le droit successoral se répondent et se complètent. On ne peut pas séparer les deux. Donc beaucoup d'études, malheureusement, et les historiens du droit aussi font cette erreur, disons que c'est un choix, souvent. Il y a trop de travail à faire, donc limite un peu à la fois le travail et les problématiques. Donc ils choisissent d'étudier soit le droit successoral, soit le droit matrimonial. Mais les deux sont liés, donc c'est ce que je m'efforce de montrer, mais ça prendrait évidemment beaucoup de temps à détailler. Mais c'est l'objet des livres principalement, donc des trois livres que j'ai écrits sur le sujet. Donc il faut bien comprendre, il faut bien avoir cette articulation en tête. Mais si aussi, alors il n'y a pas que la limite technique le problème du temps. Bon, un historien qui veut étudier le droit matrimonial, il a déjà suffisamment à faire pour écarter le droit successoral. Moi, je comprends très bien, on est tous limités dans le temps. Bon, mais il n'y a pas que cette contrainte matérielle, contrainte de temps, qui explique pourquoi les historiens n'étudient jamais les deux ensemble. C'est aussi une certaine vision du droit qui explique cette séparation. La plupart des historiens du droit, des historiens généralistes qui traitent aussi de ces questions, considèrent que le droit est une boîte à outils où on peut tout trouver et où on va piocher tel ou tel outil ou tel ou tel instrument de façon à parvenir à ses fins. On peut toujours arriver d'une manière ou d'une autre à ses fins, on trouve tout dans le droit. Alors c'est une idée assez répandue. Et le thème en vogue depuis quelques années de l'appropriation du droit a renforcé cette tendance. Donc c'est une sorte d'instrument à tout faire, le droit. On peut trouver une chose et son contraire. Voilà. Et donc les utilisateurs du droit se débrouillent toujours pour faire un peu ce qu'ils veulent, en définitive. Et donc c'est une technologie, le droit, selon eux, qui est offerte à tous les emplois, une somme d'arrangements, de compromis, de régulation juridique et judiciaire qui offre à chacun une solution à son problème. Et chemin faisant, on a oublié l'horizon normatif du droit. On a oublié que le droit, ce sont aussi des normes plus ou moins contraignantes, en tout cas des lois qui sont organisations et prescriptions qui prétendent imposer aux conduites humaines un ordre et une finalité. Et c'est cet horizon-là, normatif, fondé donc sur les valeurs et sur des choix d'organisation domestique que j'ai voulu retrouver. Alors d'abord en région parisienne, à l'occasion de la thèse que j'ai faite sur Paris, sur Villiers-le-Bel et Écouen, et puis à nouveau donc en Normandie. Et donc mon étude d'Argence va donc partir des actes notariés, ceux à caractère familial, mais aussi les actes à vocation économique. Donc j'ai utilisé les ventes, les locations, les obligations, les quittances. Il y a un chapitre à peu près sur chacune de ces choses. J'ai fait un chapitre sur l'endettement, il y a un chapitre sur le marché foncier, un chapitre sur le marché locatif. Donc ça complète la partie vraiment familiale, qui est le gros tiers du livre quand même. La première partie concerne vraiment la famille, le mariage et la transmission des biens. Ensuite, je passe un peu une description d'Argence, du bourg d'Argence, assez détaillée, puis après, donc, à l'économie. Et c'est là que j'étudie le marché foncier, le marché locatif et les mouvements, les trajectoires fiscales auxquelles je tenais beaucoup, et puis donc également la mobilité sociale. Et je me suis posé un certain nombre de questions sur la famille normande. Je me suis demandé pourquoi, il s'agissait aussi de relier un peu tout ça, ou plutôt je me suis demandé si l'exclusion des filles avait favorisé l'ascension sociale des fils. Est-ce que les garçons, au moins, ont bénéficié d'une manière ou d'une autre de cette exclusion des filles? Est-ce que les garçons ont gravi quelques échelons dans les fortunes, dans les statuts? Est-ce que finalement cette exclusion des filles avait une utilité si le but et l'objet de cette exclusion féminine était d'éviter l'appauvrissement des ménages par une division excessive des biens, par exemple? Bon. Voilà, donc tout ça est un petit peu... j'ai essayé d'articuler tout ça, donc au moyen d'une reconstitution des familles, d'une reconstitution ensuite des trajectoires fiscales. Ce qui a donc pris un certain temps, bien sûr. Il a fallu reconstituer les familles. C'est une étape toujours très très longue et minutieuse avec l'état civil. Après, les actes notariés complètent ça. Et puis, les rôles fiscaux, les rôles de taille également rendent service. Les rôles de taille m'ont été assez utiles, aussi pour les indications professionnelles. Parce qu'il y a des mentions de profession au XVIIIe siècle qui sont assez nombreuses et qui permettent également de voir les changements de profession. C'est un des aspects de la mobilité socio-professionnelle que j'évoque, c'est les variations de revenus, mais également les changements de métier ou d'activité. Et donc ces courbes, elles commencent au moment où le couple commence à payer un impôt, c'est-à-dire ça coïncide avec le mariage, et puis ça s'achève quand un des deux conjoints décède, évidemment, auquel cas le survivant après reste à Argence et paye, mais c'est à son nom qu'on trouve bien sûr la déclaration, ou bien même le couple s'en va ailleurs. Bon, mais ce problème ne s'est pas posé trop pour moi parce qu'Argence est un bourg d'immigration. Il y a un afflux assez important d'habitants à l'intérieur en direction d'Argence et peu de sorties. Donc j'ai pas perdu beaucoup de, quand j'ai fait mes trajectoires, je les ai presque toutes gardées sur toute la durée de vie du couple, parce qu'il y a peu de départ. Bon, donc j'examine différentes choses dans le livre La famille normande. Donc, puisqu'il est impossible d'étudier aussi les revenus, les richesses, sans prendre en compte les détenteurs de la terre et des principaux revenus du lieu, je parle pas mal aussi de la seigneurie, du régime seigneurial, pour voir si ça a favorisé une élite, laquelle. Et alors, à Argence, la seigneurie, c'est l'abbaye de Fécamp, la Trinité de Fécamp, qui est une abbaye très très puissante, hein, qui possédait une baronnie complète en Basse-Normandie, enfin, dans la région, dans la plaine de Caen, et puis donc, qui était vraiment très très importante, qui est une justice très active encore, bon, et qui contrôle beaucoup de choses dans Argence. Est-ce que le marché locatif compense la pénurie de terres? C'est une autre question que je me suis posée. Enfin, comment le marché foncier vient-il corriger ou aggraver les inégalités sociales? Bon, alors je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui de reprendre tous ces points, hein, évidemment, ce serait trop long. Donc je ne parlerai ni du marché locatif, ni du marché foncier. Je vais me concentrer seulement sur deux choses, essentiellement la préférence masculine, pour, disons, aller au but, aller à l'essentiel tout de suite. Donc, la préférence masculine, qui est vraiment le cœur de tout le problème normand, je dirais, sous l'Ancien Régime, et puis la mobilité sociale, ensuite, dans un deuxième temps. Alors, pour commencer, encore, j'en suis toujours qu'à l'introduction, mais je vais faire vite. Je voudrais rendre hommage aux travaux sur lesquels je me suis appuyé, principalement d'historiens du droit. Il se trouve que l'Université de Caen a eu par le passé d'éminents spécialistes du droit de la famille, Robert Genestal par exemple, fait paraître de nombreux articles et travaux toujours très très utiles sur le droit privé, le droit de la famille normand, Jean Hiver surtout, Jacqueline Musset qui a offert une synthèse très commode sur le droit matrimonial, Virginie Lemonnier-Lesage qui a publié en 2005 le statut de la femme mariée dans la Normandie coutumière, premier livre consistant, très lourd, fondé sur l'étude des actes de la pratique, un livre remarquable par plusieurs aspects, mais qui étudie plutôt d'abord le statut de la femme mariée, c'est-à-dire pas le droit successoral mais le droit matrimonial, et puis plutôt des actes de Rouen ou de la bordure orientale de la Normandie, donc un autre secteur que le mien, avec qui j'ai, bon, on partage évidemment le sujet et beaucoup de résultats, mais bon, un petit désaccord également, enfin je pense que je diverge sur la conclusion, hein, de son travail, puisque elle dit que la coutume ne traduit plus au XVIIIe siècle, à la fin de l'Ancien Régime, les besoins et les exigences de la société. Et ce n'est pas mon sentiment. Je ne pense pas. Je pense que la coutume normande reste tout à fait adéquate aux finalités poursuivies, à l'état d'esprit des populations, et je m'efforce de le montrer par des actes de la pratique. Hein, mais donc, sur ce point-là, nous sommes en désaccord. Donc, beaucoup de choses, hein, finalement, beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'articles. Bon. Et chacun ayant apporté des éléments très et des informations très précieuses. Alors pour Jean Hiver, il y a une chose qui est un peu curieuse quand on voit sa carte. C'est un juriste qui a fait une synthèse de toutes les coutumes, hein, françaises et établi une carte des aires coutumières, un ouvrage indépassé, hein, qui réunit et rassemble les coutumes par famille. Et on peut être étonné en lisant Jean Hiver, en regardant sa carte, de voir la Normandie dans les pays d'égalité parfaite. C'est quelque chose qui surprend, puisque les filles sont exclues. Mais en fait, c'est logique. Et c'est assez juste, parce que, en fait, il importait peu en Normandie que les filles soient inégalement pourvues. Il n'y avait que les garçons qui importaient. Hein. Seuls les garçons comptaient. Donc, l'inégalité entre filles avait n'avait pas d'importance ni d'intérêt. Donc, du point de vue des populations d'autrefois, l'égalité, c'est effectivement un principe majeur en Normandie. Et il n'y a pas d'erreur, donc, à faire comme Jean Hiver, à classer la Normandie dans les pays d'égalité parfaite. Alors, bon, les filles étaient exclues. C'est donc le point le plus frappant de la coutume, exclues du partage des immeubles. Et ce n'était pas un effet de la dot. Parce que dans le Midi de la France, les filles pouvaient être exclues par une dot. En Normandie, ce n'est pas le cas, parce que si une fille est dotée, une fille qui aurait des frères, elle serait dotée. Supposons que les frères décèdent, ben les filles se retrouvent héritières. Mais à ce moment-là, la fille qui a été dotée vient au partage, comme celles qui ne l'ont pas été. Donc ce n'est pas une question de dot. Une fille, qu'elle soit dotée ou pas dotée, ça ne change rien. Elle peut revenir au partage si les circonstances font que les filles héritent. Donc c'est pas l'exclusion des filles, elle n'est pas liée à la dot. Elle n'a pas ça pour cause. En fait, il faut s'efforcer de voir les choses positivement. Bon, nous, on considère tout de suite que l'exclusion des filles, c'est une incongruité ou quelque chose d'inique. Bon, ça nous paraît tout à fait étrange. Mais si on regarde les choses positivement, c'est-à-dire du point de vue exclusif des garçons, c'est logique. C'est logique. Les filles sont exclues du fait de la présence des garçons. C'est ça. D'ailleurs, si on prend l'article de la coutume, article 249, c'est dit de manière positive. Les filles ne peuvent demander ni prétendre aucune partie à l'héritage de leur père et mère contre leur frère. Elles peuvent rien demander contre leur frère. Donc c'est bien, c'est pas ce que les filles obtiennent qui est pris en compte. C'est ce qu'elles retireraient aux garçons. Donc il ne faut pas qu'elles retirent quelque chose aux garçons. Voilà. Et ça, c'est dans leur esprit, aux Normands de l'époque, c'est très positif comme principe. On ne retire rien à des garçons. Voilà. Donc les filles n'ont droit qu'à une légitime, enfin, un mariage avenant. Donc on voit bien que le système est conçu en faveur des hommes. Alors, et la raison de cette préférence, eh bien, c'est l'attachement à la continuité du patrilignage. Dès qu'il n'y a plus de garçons, tout redevient indifférent, les filles peuvent hériter, et il y a même l'aîné sans fief n'a plus cours quand il n'y a que des filles. Donc les filles retrouvent des droits quand il n'y a plus de garçons. Enfin, d'autres, des droits plus conséquents que leurs légitimes. Voilà. Alors, maintenant, au 18e, il y a quand même des choses qui ont légèrement bougé. Et donc, c'est l'objet, j'attaque enfin le développement de mon exposé, l'amélioration de la condition des femmes. Donc, il y a quand même des choses qui se sont produites au 18e, et plutôt dans un sens favorable aux femmes. Mais il faut vraiment regarder ça de près pour comprendre qu'on ne touche pas au modèle normand vraiment à fond. Que ce sont des légers frémissements, mais absolument pas un bouleversement et un changement de régime d'idées ou de culture. Alors, bon, depuis François Furet, la production historique a largement relayé l'idée que la Révolution n'avait rien changé, rien apporté qui n'aurait déjà été présent, au moins en germe, dans la société. Et les rares travaux ou articles récents sur le sujet disent que bon, l'égalité des hommes et des femmes, finalement acquise au moment de la Révolution, bah, finalement, elle était déjà là, bien avant la loi du 17 niveaux en deux. C'est pas la Révolution qui apporte l'égalité des hommes et des femmes, c'était déjà en germe, avant. Bon, parce que la loi du 17 niveaux en deux, c'est la loi qui fait l'égalité successorale des filles et des garçons. Bon, en somme, on aurait déjà eu dans la pratique, avant la Révolution, un glissement vers des pratiques égalitaires. Et bon, alors, et puis on sait qu'il y a un progrès de la conjugalité au 18e, et un progrès, une meilleure prise en compte des sentiments. Donc ça, c'est assez connu, donc ça se manifeste dans la littérature, dans plein de domaines. Alors est-ce que le sort des femmes s'améliore-t-il vraiment? Si oui, jusqu'à quel point? Et quel sens faut-il donner à cette amélioration? Eh bien, j'ai donc examiné différentes clauses, enfin toutes les clauses, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait les voir toutes. Donc j'ai essayé de prendre en compte toutes les clauses des contrats, des mariages d'argent, et puis voir comment elles ont évolué au cours du siècle. Alors effectivement, il y a une amélioration. Mais tout de suite, disons sur quoi ne portent pas les améliorations. Alors, les améliorations ne portent pas sur les pièces majeures du contrat de mariage, c'est-à-dire le douaire. C'est la première chose qui compte pour les veuves, c'est de toucher un douaire, c'est-à-dire une part en usufruit des biens de son défunt mari. Alors, en Normandie, quotité d'un tiers, rien ne change. Le douaire n'est pas modifié en quoi que ce soit. Du début à la fin du 18e, il n'y a pas de changement. Deuxième aspect, la restitution de la dot. Caractéristique importante en Normandie où les femmes sont dotées. Quand le mari décède, la femme peut réclamer la restitution de sa dot. C'est également vrai dans les pays de droit romain. Bon, c'est une clause de style au 18e. La dot est consignée sur les immeubles du mari. Mais avant, ça c'est vrai au 18e, mais même avant le 18e, quand la dot n'était pas systématiquement consignée dans le contrat de mariage, personne ne contestait à la femme le droit de venir récupérer sa dot. De toute façon, ça n'a jamais été mis en un point acquis et évident. Donc, il n'y a pas de procès autour de cette question, pratiquement. En tout cas, pas dans les couches populaires. Il n'y a pas de problème de cet ordre. Donc, la récupération de la dot par la femme, par la veuve, ne pose pas de problème. Donc, il n'y a pas de progrès de ce côté-là. Alors, plus intéressant, parce que là, donc rien ne bouge, ce sont les donations mutuelles qui apparaissent dans 21% des contrats postérieurs à 1762, alors que les donations mutuelles étaient repoussées avant, interdites même longtemps, pendant longtemps par la jurisprudence. Et grâce à ce don mutuel, le survivant obtient tous les meubles en pleine propriété. Alors on a voulu y voir l'indice d'un contournement de la coutume qui prohibe la communauté de biens en Normandie. Donc si on a un régime total, c'est que on interdit, et là c'est là, la coutume là est contraignante, effectivement, interdiction formelle de faire un contrat de communauté de biens entre la femme et le mari. Donc du coup, tous les meubles appartiennent au mari, bon, la femme n'a droit à rien sur la communauté, donc on a en tout cas un titre conjugal, et on aurait contourné cet interdit par cette donation mutuelle. Bon, très bien, et là c'est incontestablement une nouveauté, même si c'est que dans 21% des contrats, après 1762, bon, c'est une incontestable nouveauté. Mais c'est passé un peu vite sur un aspect essentiel, et pas négligeable, de la donation mutuelle, c'est que la donation mutuelle ne s'applique qu'à défaut d'enfant. À défaut d'enfant. Or, tous les couples s'installent avec l'idée d'avoir une descendance. Donc, il faut quand même garder ça à l'esprit. Donc, certes, il y a peut-être un progrès là, mais un progrès qui est subordonné ou mis après autre chose, bien après autre chose. Alors, c'est la même chose à Lille, avec le ravestissement, qui accorde l'usufruit ou la propriété des meubles aux survivants, dans l'hypothèse uniquement où il n'y a pas d'enfant. Toujours. Et c'est vrai de la donation mutuelle à Paris, que Jean-Marc connaît bien, pour avoir un article là-dessus, où également c'est en l'absence d'enfant, toujours, hein, que la donation mutuelle joue. Bon, donc, je suis d'accord, il y a effectivement un progrès, mais il faut bien quand même garder à l'esprit que dans la grande majorité des cas, il n'est pas prévu que la clause joue. Hein, c'est, s'il n'y a pas d'enfant, on veut bien que la femme récupère tous les meubles. Bon. Donc il y a bien une amélioration, mais subordonnée à cette condition. Alors, est-ce que ça fait de la femme une associée? Certainement pas. La communauté de biens fait de la femme une associée. Mais là, à mon sens, il n'y a pas de progrès qu'on puisse interpréter comme un progrès d'un esprit communautaire. Hein. Bon, d'ailleurs, il me semble que si c'était un progrès, le témoignage d'une forme d'esprit communautaire, on devrait voir cette clause dans des contrats qui concernent les marchands, par exemple, des professions où il y a beaucoup de biens meubles. Et ce n'est pas le cas, en tout cas à Argence, où ce sont plutôt les femmes les plus modestes, journaliers, les femmes des journaliers ou des domestiques qui en bénéficient. Donc des professions où il y a peu de meubles. Donc finalement, on fait profiter les veuves de cette clause quand il n'y a pas grand-chose à récupérer. Donc c'est parce qu'il n'y a pas de grand transfert et que par rapport à la quotité disponible de meubles que permet la coutume normande, bon, ce sont des petits transferts et donc ils sont permis pour un petit nombre de femmes parmi les plus modestes. Voilà. Bon, il n'y a pas de. D'ailleurs, il y a d'autres indices qui montrent que il n'y a pas de véritable esprit communautaire en Normandie. Il est assez faible. Hein. Les Normands paraissent assez rétifs à l'idée de communauté dans les campagnes. Je précise, dans les campagnes, les Normands paraissent assez hostiles à toute forme d'association. Je trouve, par exemple, très très peu d'associations entre frères. Alors, dans une coutume agnatique, c'est-à-dire une coutume où tous les biens sont partagés à égalité entre frères, c'est quand même quelque chose de très étonnant dans les pays, d'autres pays agnatiques, comme la Provence, par exemple, où, quasiment ce sont les frères héritent. Alors, non pas égalité, mais il y a une légère inégalité même entre garçons. Mais on approche d'un régime agnatique et à certaines, dans les montagnes de l'arrière-pays, dans les Alpes, on a l'égalité entre garçons jusqu'au 18e. Hein. Donc, eh bien, dans ces régions-là, où on a l'égalité entre frères, on a une très forte solidarité des frères, des associations de travail, de coexistence, des liens fraternels très forts. En Normandie, non. Hein. En Normandie, les frères, ça, j'ai trouvé un, deux cas d'association entre frères. Bon, donc, il n'y a pas d'esprit communautaire. Donc, on ne doit pas s'étonner que la coutume, là, me semble aussi fidèle, aussi conforme à la pratique des habitants. Alors, il y a quand même une nuance à apporter, c'est dans les bourgages, une précision à apporter, c'est que dans les bourgages, alors les bourgages, ce sont des bourgs dans lesquels les acquêts se partagent par moitié, entre hommes et femmes. Donc là, effectivement, on a quelque chose qui pourrait être vu comme une communauté, une forme de pratique communautaire. Donc, et il se trouve qu'Argence est en bourgage. Alors, sauf que ce n'est pas une innovation du 18e. Les bourgages existent depuis bien longtemps. Jean Hivert pense qu'ils existaient déjà au 14e siècle. Alors, donc, on ne peut pas y voir une amélioration de la condition des femmes au 18e. D'abord, il n'y en a pas partout, évidemment, des bourgages. Et puis, ça existe depuis fort longtemps. Donc, l'amélioration de la condition des femmes au 18e, d'accord, mais dans des bornes quand même étroites, et dans des bornes limitées. Voilà. Alors, deuxième question. Les filles sont-elles devenues un peu plus dignes d'être des héritières au 18e? Alors là, parce que là, j'ai évoqué que le régime conjugal, hein, le régime des biens entre époux, pour montrer donc qu'il y avait un petit progrès, mais bon, limité. Alors, ensuite, la transmission. Verticalement, axe vertical, donc les filles, est-ce qu'elles héritent plus au 18e qu'avant? Alors là, je ne vais pas entrer dans les clauses détaillées des contrats, parce que ça serait vraiment long et compliqué, mais j'ai utilisé 235 contrats qui se répartissent en trois groupes selon que les droits des filles ont été ou non liquidés par leur père et selon le désir des parents de les réserver à un partage ultérieur. Alors ça veut dire que, sans entrer donc dans le détail, hein, les pères peuvent accorder une certaine somme d'argent à leur fille pour qu'elle se marie et dire je liquide ses droits. Il y a une liquidation des droits et l'acte le dit. Il y a un deuxième cas de figure, le père fait une donation, mais il dit rien. C'est tout. Il se tait, il fait la donation et c'est tout. Et puis il y a un troisième cas de figure, minoritaire, qui est je donne quelque chose à ma fille et je la réserve. Donc ça veut dire qu'elle peut revenir au partage plus tard. Donc, avec les garçons, cette fois. Donc voilà, trois possibilités. Alors, les deux premières sont intéressantes, même si en pratique ça ne change pas grand-chose. Il est intéressant de les distinguer. Parce que, en fait, le droit normand prévoit l'exclusion des filles. Hein, c'est-à-dire que le père n'a pas aucune obligation de donner une somme précise à une fille pour qu'elle se marie. Il suffit que le père donne une somme, quelle qu'elle soit. Et c'est la seule chose à laquelle elle a droit. C'est un forfait. Donc, le père, quand il dit qu'il liquide les droits de la fille, il n'est pas obligé de le dire, en fait. Hein, c'est gratuit. Juridiquement, ça ne change rien. Donc, c'est intéressant quand même qu'il y ait des pères qui prennent le soin de le dire. Parce que je pense, moi j'y vois un signe. Le fait qu'on dise qu'on liquide les droits des filles, même si ce n'est pas obligé de le dire. Hein, je pense que c'est le signe, non pas d'une meilleure prise en compte des filles, forcément, mais de la naissance, l'ébauche d'un scrupule. Les pères commencent à se dire que finalement, quand même, exclure les filles, sans même un mot d'explication, ni rien leur reconnaître, vraiment, c'est peut-être un peu brutal. Et comme l'idée de légitime, qui est l'idée que tout le monde a le droit à un minimum, a beaucoup progressé dans le royaume depuis le sud de la France en direction du nord, parce que ça vient du droit romain. Ben, ça a fini aussi par gagner la jurisprudence dans le nord de la France. Eh bien, en Normandie, on commence à considérer que les filles ont peut-être quand même droit à quelque chose. Et donc, un certain nombre de pères commencent à dire, alors, ils font comme s'ils avaient fait un calcul. Voilà. On peut le supposer, même d'ailleurs, peut-être certains ont fait ce calcul. C'est pas impossible. On va donner une somme à la fille qui sont ses droits. Voilà. Donc, dans l'acte de mariage, la fille est dotée, et puis le père dit, je liquide les droits de ma fille. Bon, mais alors il faudrait voir maintenant si les droits des filles ont vraiment augmenté quand les pères disent ça, hein, par rapport à ceux qui donnent sans aucune explication un forfait et au revoir. C'est très difficile à savoir. Je ne pense pas que ça ait beaucoup changé. En tout cas, c'est un forfait, dans les deux cas, que le père liquide ou pas les droits de la fille, qu'ils disent qu'il liquide ou pas les droits de la fille, ça ne change rien, c'est un forfait. Et la fille qui est dotée, elle est exclue. Et elle ne peut rien réclamer. Et en justice, on ne voit pas un seul procès pour d'une fille demandant ce qu'on appelle un supplément, hein, supplément de légitime qui permettrait d'atteindre ce seuil que partout ailleurs on reconnaît aux femmes. Là, non, il n'y a aucune fille qui fait une demande, une réclamation. Hein. Les filles sont exclues, c'est un forfait. Et les filles doivent obéissance à leur père, donc on n'en voit pas qui désobéissent ou qui fassent l'affront au père de lui réclamer quelque chose en plus. Donc ça, c'est des contrats qui restent majoritaires, hein, l'exclusion. Alors il reste le troisième groupe, celui qui nous intéresse par rapport à l'égalité entre filles et garçons, qui est celui des filles réservées. Et là, alors donc, il y a une progression qui est incontestable au cours du siècle, puisque entre le début du 18e et la fin, le nombre de contrats où les filles sont réservées passe, ou la fille qui se marie est réservée, passe de 13,3 à 32,4. Et bon, c'est quand même pas inexistant, hein. Donc ça fait beaucoup. Donc cette réservation, elle existe là aussi depuis très longtemps, puisque la coutume l'a définie, coutume de 1583, qui donc fort ancienne. Dans la coutume, articles 258 et 259, dit que les filles réservées ont droit au tiers des héritages. Bon. Alors, elles ont droit au tiers, donc les garçons ont encore les deux tiers. C'est pas encore l'égalité, même réservée. Bon. Alors, sauf que en Bourgage, et c'est là qu'on arrive à Argence, en Bourgage, c'est pas les un tiers, c'est la moitié. Ah, donc là, ça devient vraiment l'égalité, effectivement, des filles et des garçons. Les filles réservées en Bourgage, donc à Argence, les filles réservées ont droit à la même chose que les garçons. Et donc là, effectivement, on passe de 13,3 à 32%. Donc c'est intéressant. Alors, est-ce que pour autant, ce progrès traduit bien une évolution vers l'égalité, hein, que beaucoup donc d'historiens souhaitent voir de façon à atténuer l'impact de la révolution et les effets de la révolution? Bien, il y a plusieurs mariages qui indiquent que, en fait, les réservations sont, ont pour cause des difficultés économiques des parents. Alors là, pour, je vais juste mentionner un seul contrat pour bien... Ça, parce qu'il illustre très bien ce mécanisme. C'est un bourrelier qui s'appelle Gratien Porret, qui a trois filles, un garçon aussi. Alors, une première fille mariée en 1759, Marie-Françoise, il liquide ses droits. Là, ce contrat le dit, la fille est dotée. Liquidation de ses droits pour la somme modique de 84 livres. Quelques années plus tard, deux sœurs cadettes se marient. Et elles sont réservées, toutes les deux, au succession de leurs parents. Elles apportent uniquement des meubles qu'elles ont épargnés de leur travail à elles, et les parents ne donnent rien. Donc, c'est, on voit donc ce qui se passe. La fille qui a été dotée n'est pas réservée, et la fille qui a été dotée, oui, n'est pas réservée, et les deux filles qui n'ont pas été dotées, elles le sont. Et puis, l'année 1766 s'achève par un accord devant notaire. On a quelques années plus tard, et on apprend dans cet accord que le père est dans l'impossibilité de payer les 84 livres promises à l'aîné quelques années plus tôt. Donc, la seule qui avait été dotée, hein, à qui on avait promis une somme. Eh bien, le père n'a pas été capable de lui donner la somme. Or, le gendre, il est mécontent, mais il veut bien renoncer à la promesse du contrat de mariage, sauf qu'il exige que sa femme soit elle aussi réservée, du coup, comme ses sœurs, celles qui n'avaient pas été dotées. Et il ajoute qu'il faut que la légitime soit fixée, le moment venu, par parent convenu. Voilà. Donc on voit que la légitime, elle n'a pas été pensée d'emblée pour les trois filles. Hein. Elle a été prévue pour les deux filles qui n'ont pas été dotées. La première avait été dotée et pour elle, ce n'était pas prévu la réservation. Donc on voit dans quelles circonstances on fait jouer la réservation. La réservation, eh bien, elle permet de repousser le règlement financier à plus tard. En fait, les deux filles qui n'ont pas été dotées, par la réservation, eh bien finalement, on peut se marier avec leurs économies à elles et n'auront plus qu'à patienter pour que le partage intervienne ultérieurement. Voilà. Donc, la fonction là, de la réservation, elle est en fait de pallier à des difficultés de trésorerie. Voilà, c'est ça. Donc, les filles... Alors après, on se dit, mais est-ce que c'est le cas des autres aussi, hein, parce qu'on a un cas. Est-ce que les filles réservées à la succession de leurs parents sont alors tout simplement celles qu'on n'arrive pas à établir correctement? Puis comme on n'arrive pas à leur donner une somme correcte, ben, à défaut de pouvoir leur donner de l'argent, on dit ben, « mais je te réserve à la succession pour plus tard ». Le père dit ça à sa fille. Et je ne peux rien te donner tout de suite, mais je te donne la possibilité de venir plus tard au partage. Donc c'est peut-être ça. Hein, et effectivement, on constate que les journaliers apparaissent très souvent parmi les parents qui insèrent une clause de réservation. Donc j'ai un tableau, je ne l'ai pas mis là, mais dans le livre, de la répartition sociale de la clause de réservation, on voit que les journaliers sont les utilisateurs privilégiés de ces clauses de réservation. Et puis on voit aussi que les filles, parmi les journaliers, même au sein même du groupe des journaliers, il y a toujours un décalage en faveur des filles non réservées dans les apports au mariage. Parce qu'une fille non réservée, c'est un forfait qui l'élimine de la succession, donc on a quand même l'obligation de lui faire une belle somme. Et c'est toujours le cas, quand il y a une donation, une fille qui n'a pas été réservée touche toujours beaucoup plus qu'une fille qui est réservée. Donc ça se vérifie au sein même du groupe des journaliers. On voit bien qu'il y a un mécanisme, que la réservation sert à compenser un apport au mariage qui est défaillant. Voilà. Donc ce n'est pas, à mon sens, un progrès de l'égalité. Alors, cela dit, il y a d'autres causes possibles encore. Je ne veux pas simplifier une multiplicité de causes possibles à toute clause, y compris les clauses de réservation. Mais à mon sens, quand même, il y a un lien entre, et avec ce que je trouve donc de la présence de cette clause dans les groupes sociaux variés, je pense que la clause de réservation ne traduit pas du tout un progrès de l'idée égalitaire, mais des difficultés. Des difficultés économiques qui font que, faute de pouvoir bien doter les filles, on leur promet quelque chose pour plus tard. Et ça se fait dans des groupes sociaux plutôt modestes. Voilà donc les deux, et j'ai été long, donc j'en finis là pour le mariage. Et l'exclusion, le caractère masculin donc du régime matrimonial et successoral normand. La préférence masculine donc, à travers les contrats de mariage, me semble assez clairement en faveur des garçons. Et je ne vois pas ce progrès de l'égalité que certains auteurs veulent voir. Alors, je peux en venir au deuxième point, donc la mobilité. Alors, la mobilité, je l'ai observée à partir des rôles de taille. Et alors avec beaucoup de il faut prendre beaucoup de précautions dans la manipulation des rôles de taille, parce que le greffier reporte des mentions professionnelles de façon automatique bien souvent. Il reporte d'une année sur l'autre les mêmes qualifications professionnelles. Alors quand on veut retracer comme sur le tableau des changements d'activité, c'est un peu embêtant, parce que il faut être sûr que le changement d'activité a bien eu lieu. Et on ne peut pas se fier nécessairement à la déclaration qui est faite par le greffier d'un rôle de taille. Il y a un rôle à Argence du 10e de l'industrie, par exemple, qui présente Nicolas Guédon en disant « Il ne fait plus la profession de maréchal depuis même 1747 ». Le problème, c'est que le rôle de taille d'Argence continue de dire que Nicolas Guédon est maréchal pendant encore 10 ans, jusqu'en 1757, jusqu'à l'âge de 85 ans. Donc il y a 10 années de rôle de taille fautif. Voilà. Parce que le greffier du rôle de taille a dû recopier la mention professionnelle de manière automatique d'une année sur l'autre, pendant les 10 années. En fait, il avait cessé d'être maréchal. Un autre exemple, le curé de Saint-Patrice d'Argence, qui atteste que Jean Barbet, 68 ans, est mendiant. Et le papier dit, c'est un vagabond presque toujours absent de chez lui. Mais le rôle de taille, lui, la même année, dit que c'est un journalier âgé. Voilà, donc, dans un cas, c'est un vagabond presque toujours absent. Dans l'autre, c'est un journalier. Voilà, donc, vous voyez qu'il y a, entre le rôle de taille et d'autres sources, parfois des décalages qui peuvent être ennuyeux. Bon. Donc, il faut manier le plus de sources possibles et ne pas utiliser non plus, c'est ce que j'ai fait, j'ai pas utilisé que les rôles de taille, j'ai utilisé tous les actes notariés, un certain nombre de pièces judiciaires également, de réception pour les artisans, des lettres de réception. Alors ça, c'est très précieux, parce que à Argence, on a parfois des listes, des énumérations très précises de toutes les activités menées par les artisans, et parfois il en fait 5 ou 6 à la fois. Et ça, c'est rarissime, les sources qui indiquent ça. En général, les sources ne donnent qu'une seule profession. C'est très rare qu'on ait mention de tous les métiers accomplis en même temps. Et il y a une polyvalence incroyable. Un personnage, par exemple, qui, dans Argence, est un artisan établi depuis plus de 30 ans. Dans cette lettre de réception, on apprend qu'il était reçu maréchal, blanchevrier et quincailler. Alors, on se demande s'il a pu faire tout ça à la fois. Et, puisque dans les rôles de taille, il a d'abord été serrurier pendant 14 ans, puis après armurier pendant 3 ans, et enfin horloger après 1754. Alors, donc d'après les rôles de taille, c'est des activités menées successivement. Mais au moment de sa réception, il déclare toutes ses activités simultanément. Et il y a un autre document, d'ailleurs, judiciaire, qui montre qu'il est simultanément armurier et horloger. Donc le rôle de Taï mentionne des métiers successifs, alors qu'en réalité, il les a conduits en même temps, simultanément. Donc ça, c'est la question de la polyvalence et du fait que la spécialisation est peu poussée dans les bourgs ruraux ou dans les villages ou dans les campagnes. Et c'est vrai de la plupart des artisans de la campagne, d'ailleurs. Donc tous les menuisiers et charpentiers d'Argence peuvent être aussi charron, tourneur, tonnelier ou sabotier. Donc tous les métiers du bois, finalement. Donc pour moi, ce ne sont pas des travailleurs pluriactifs au sens habituel du terme. Ce sont des travailleurs polyvalents. Ils ont un savoir-faire relatif à une matière, un matériau, et ils le développent. Mais on ne change pas vraiment de métier. Donc quand j'ai étudié la mobilité professionnelle, j'ai pris en compte que ce que je considérais des vrais changements de profession. Pas la polyvalence, mais la vraie pluriactivité, ou le vrai passage d'un métier à un autre plutôt, quand un marchand drapier, par exemple, devient aubergiste. C'est le cas d'un nommé Jean-Baptiste Moulin. Ou quand un mégissier devient drapier. Voilà. Donc là, on a de véritables changements de profession, mais c'est du cas par cas. Il faut examiner vraiment chaque personne et la suivre individuellement. Donc j'arrive à peu près 20% de véritables travailleurs pluriactifs dans Argence, ce qui est un pourcentage proche de celui mesuré par Jean-Claude Farcy pour 22 communes du canton de Janville en 1851. Bon, il y a assez peu de travaux finalement qui offrent des chiffres, donc c'est pas la pluriactivité n'a pas retenu encore suffisamment l'attention et on a peu d'estimation de la part des travailleurs pluriactifs. Bon, méthodologiquement, c'est vrai que c'est un calcul difficile. Donc, mais risqué, difficile, mais qui me semble utile à faire. Alors la mobilité, bien, j'observe que c'est parmi les marchands qu'elle est la plus forte, puisque elle est de 50% sur le tableau qui est projeté ici. Ensuite, j'ai rapporté la mobilité au changement d'imposition. C'est-à-dire quand l'imposition augmente, c'est très rustique comme procédé, quand l'imposition augmente, je considère que c'est une ascension sociale, et quand elle baisse, l'inverse. Voilà. Donc, ça donne le résultat que vous voyez là. Alors, il y a un vrai chassé-croisé, puisqu'il y a des journaliers qui deviennent laboureurs. Alors, comme j'ai aussi relevé les âges, ça me permet de calculer un âge moyen à tous ces mouvements. Les journaliers deviennent laboureurs après 45 ou 50 ans. Inversement, il y a des laboureurs qui font le trajet inverse, qui descendent après 45 ans. Mais toutes catégories confondues, on observe que la mobilité ascendante intervient plus tôt que la mobilité descendante, avec un écart de 8 années et demie. C'est en effet à l'âge moyen de 44,7 ans que se produisent en moyenne les changements positifs et à 53,2 les changements négatifs. Ce qui doit pouvoir être interprété comme un effet du cycle de vie. C'est-à-dire que quand on est jeune, jusqu'à avant 50 ans, les mouvements vont vers le haut et puis après plutôt vers le bas. Donc ça épouse, à mon idée, le cycle de vie. Alors ensuite, j'ai voulu aussi, mais tout ça sur des échantillons, je vous l'accorde, qui sont réduits. Donc ça, c'est la grande difficulté. Il faut reconstituer toutes les familles, il faut retrouver les âges, suivre les rôles de taille. Je ne vous ai pas décrit la méthode, mais les rôles de taille sont... La reconstitution des trajectoires fiscales, c'est un travail de Romain, parce que les rôles de taille, tous les ans, malgré tout, même si le greffier recopie les rôles, l'arrivée de nouveaux venus fait que tout se décale. Tous les noms, toutes les listes sont modifiées annuellement. De manière concrètement, c'est, pour ne pas vous assommer, je ne vous dirai pas la technique, mais c'est vraiment très très long, c'est très méticuleux. Non, on ne peut pas avoir des corpus lourds. C'est impossible pour un homme seul. Une équipe pourrait faire beaucoup mieux, mais un homme seul ne peut pas faire bien plus que ce que j'ai fait parce que les sources ne le permettent pas et le temps que ça prend empêche de faire beaucoup mieux. Donc, petits effectifs, je vous l'accorde. Pour la mobilité intergénérationnelle maintenant, j'ai fait 41 binômes père-fils. Donc, j'ai tous les rôles fiscaux des pères et des fils. Et j'essaye de comparer la trajectoire fiscale des pères et des fils. Et on observe, donc 41 binômes, à la fois le niveau d'imposition du père et du fils au moment où il apparaît dans le rôle, ou au moment où il commence à être imposable, en début de vie active, donc, on va dire. Et on constate que le fils ne fait mieux que son père qu'à 5 reprises sur 41. Et qu'en revanche, un démarrage est plus difficile à 11 reprises, les autres étant au même niveau que leur père. Maintenant, si on compare le niveau d'imposition des pères et des fils, non plus au début de leur vie active, mais au moment où ils sont à leur niveau maximum, j'ai fait un deuxième relevé à ce moment-là, au moment où et l'un et l'autre sont au plus haut de leur courbe, et si on compare, on constate que la progression existe. Alors sur un échantillon un peu plus étoffé cette fois, hein, de 91 cas, il y a une progression des fils 19 fois, donc une mobilité ascendante de 21%, et une mobilité descendante de 50%. Donc qu'on prenne ces binômes, hein, au début de la vie active, ou au moment où les deux, le père et le fils, sont au summum de leur carrière, si on veut dire, l'un ou l'autre, dans tous les cas, la mobilité est deux fois plus descendante qu'ascendante. Donc au 18e, sur des échantillons limités, j'accorde, au 18e émergence, c'est net, la mobilité est structurellement descendante. Puisque à tout moment du cycle de vie, c'est le même résultat, les fils font généralement moins bien que leur père. Alors ça peut s'expliquer par des tas de raisons, hein, cette mobilité descendante. Notamment l'afflux de migrants à Argence, population multipliée par 2,5, hein, c'est un phénomène rare sous l'Ancien Régime, d'une localité qui croît à un rythme pareil. Donc afflux de migrants. J'ai aussi essayé de savoir qui était migrant. Alors les migrants du début du siècle ne sont pas les migrants de la fin du siècle. Hein. Plus il y a de migrants, plus ils sont pauvres en fait. On voit avec le temps, il y a un changement entre les migrants du début du siècle, qui sont des migrants aisés, des laboureurs qui viennent chercher des grosses exploitations, des artisans cossus. Et puis, vers la fin du siècle, changement complet, c'est des migrants pauvres ou des artisans qui vont payer une livre d'imposition ou rien. Donc, des migrants pauvres. Donc voilà, il y a un changement dans les migrations. Mais cet afflux massif de migrants a eu, à mon sens, plus le partage égalitaire entre garçons. Parce que même si les filles sont exclues, entre garçons, on partage toujours à égalité, donc les patrimoines se réduisent. Hein? C'est la tendance, donc. Eh bien, ces paramètres réunis font qu'il y a un appauvrissement et une mobilité descendante. Alors, pour vous les projeter avant que d'en avoir fini, ça donne ça, donc les courbes. Là, par exemple, alors là, c'est un mode... Il y a deux modes, hein, pour les artisans. Là, Jacques Butor, par exemple, qui est en noir avec des petits triangles jaunes, on voit qu'il chute, il est boucher, marchand boucher, il chute après 69 ans. Alors, la plupart des cordonniers reculent après 65-67 ans. Pierre Guédon, qui est les carrés roses, lui il monte même. Il n'est jamais plus imposé qu'à la fin de sa vie, quand il atteint 80. Il y a Robert Giffard, également maréchal en rouge, finit également au plus haut. Il y a un dernier trait qui remonte, il y a une baisse mais ça remonte, et donc il est à son plus haut niveau au moment où il décède. Donc dans tous ces cas-là, on constate plutôt une augmentation du revenu, en tout cas de l'imposition, jusqu'à 40 ans. Après, il y a un palier plus ou moins accidenté, et les difficultés sérieuses arrivent après 65 ou 67 ans, ou bien n'arrivent pas. Donc ça, c'est un premier mode. Mais il y en a un autre qui est comme cela, Thomas et Gratien Porret, qui sont bourreliers, l'un et l'autre, et qui, eux, par contre, chutent, avec un léger décalage dans le temps, puisque Gratien descend à l'âge de 51 ans, et Thomas à l'âge de 56 ans. Mais dans leur cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont chuté en même... Ils sont deux frères, hein. Ils ont chuté en même temps, la même année, en 1757, alors qu'ils n'avaient pas le même âge. Et la raison, c'est qu'au même moment, il y a d'autres bourreliers qui s'installent dans Argence, ou qui se sont installés un peu avant, et dont, eux, l'activité est croissante. Donc moi, j'interprète ça en termes de concurrence. Les derniers arrivés ont pris la place, en fait, hein, des frères Porret. Après, il y a peut-être d'autres facteurs qui jouent, hein, individuels, qu'on ignore, mais le facteur concurrence également joue. Alors, tout ça, ce sont des échantillons minuscules, hein, c'est illustratif plus qu'autre chose, ça n'a pas d'autre prétention que ça. Hein. Ici, alors là, on a d'autres artisans. Là, c'était pour voir l'effet d'une fratrie nombreuse. Un autre paramètre qui est souvent pris en considération chez les démographes, c'est on considère que quand il y a beaucoup de fils, beaucoup d'enfants à établir, la trajectoire des enfants risque d'être plus difficile que s'il y a un seul fils unique qui hérite de tout. Alors ici, le père... C'est Pierre Incaillouet, qui est en carré rose, dont on voit bien qu'il est toujours au-dessus de ses enfants, mais que, en fait, les enfants ne sont pas à plaindre. Hein. Ils ont tous bien réussi. Il n'y en a qu'un qui a un échec spectaculaire, hein, en rouge, Charles II, Cailloué. Mais la raison, c'est qu'il a pris une ferme seigneuriale dont le loyer a explosé. Hein, à un moment donné, l'abbaye de Fécamp a voulu faire mieux rentrer de l'argent. Donc, il a loué sa ferme seigneuriale, hein, vraiment à un prix très surévalué, et ça a été fatal. Le fils n'a pas réussi à payer, à acquitter les loyers. Donc, il s'est écroulé, il ne s'est jamais remis de cet échec. Mais s'il n'y avait pas eu la ferme Dufresne et cette hausse de loyer hallucinante, probablement, il aurait fait une belle carrière. Donc, dans ce cas-là, ils ont tous un niveau d'imposition qui, par rapport à la moyenne du village, est assez haute. Mais bon, il y a quand même 2 enfants sur 3 qui font moins bien que leur père. Et puis, ici, alors c'est les enfants de Jacques Leclerc. Alors, Jacques Leclerc est en rose, oui. En bas. Alors là, ça devient un peu illisible, hein, je m'excuse. Ça se superpose et ça devient difficile à lire. Bon, ici, c'est l'exemple d'une fratrie nombreuse qui semble jouer négativement, puisqu'il y a plusieurs enfants qui font moins bien que leur père. Enfin, tous ceux qui sont en dessous du trait épais, hein, qui est le père. Bon, j'accélère encore, hein, je m'excuse. Thomas Lasserie, aucun des 4 fils du cordonnier, Thomas Lasserie, ne parviennent non plus au niveau de leur père. Triangle rose. Voilà. Bon, donc, la mobilité, elle est, structurellement, on l'a vu, plutôt descendante, ce qui n'empêche pas quand même quelques réussites. Et si on veut comparer ces différents phénomènes, pluriactivité et mobilité, il semble que la mobilité soit moindre que la pluriactivité. Hein, donc, la stratégie pour des ruraux dans cet environnement particulier qu'est Argence, la meilleure stratégie semble être de diversifier les métiers plutôt que de changer et de se spécialiser. Mais bon, entre 2 stratégies, c'est plutôt le cumul qui semble privilégié par les enfants. Mais ça ne les empêche pas de s'en sortir plutôt moins bien que leur père. Je peux ajouter juste un dernier mot sur la hiérarchie fiscale. Donc là, c'était la mobilité intergénérationnel. Après, on peut aussi examiner les choses globalement à l'échelle de toute la population du village. On constate en fait un mouvement de paupérisation, ce qui est la conséquence assez prévisible et logique. Si on à partir de ce type de courbe, on voit la plupart des fils moins bien s'en sortir que leur père. Bon, il y a une paupérisation d'ensemble. Et j'ai essayé de compter le nombre de pauvres. Alors, là, on pourra en discuter peut-être dans le débat. Qu'est-ce que c'est qu'un pauvre ? Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Bon, j'ai essayé de partir des sources et des jugements portés par les habitants d'Argence pour définir ce qu'est un pauvre, où se situe le seuil de pauvreté. Bon, il y a quand même des documents qui permettent de situer, par rapport à l'imposition, le seuil de la pauvreté, je l'ai fixé à 1 livre. Mais j'aurais aussi bien pu le fixer à 2 livres, parce que il y a par exemple... c'est à cette somme que sont taxés les bouchers Pierre Luard et Jean Ouvet en 1742, sont taxés à 2 livres tournois, alors que le curé, 2 certificats du curé disent l'un et l'autre qu'ils sont très pauvres. Bon, ça et puis d'autres citations permettent de penser qu'avec un seuil fixé à 1 livre, on ne peut pas être accusé de gonfler artificiellement le nombre des pauvres. Alors à partir de ce seuil d'une livre, j'ai comparé le nombre des pauvres à 2 dates différentes, donc 1736 et 1788. Et le résultat, c'est que le nombre des feux pauvres, donc taxés à moins d'une livre, passe de 38,2 à 70,2. Voilà. Donc c'est une progression. C'est pas, si c'était 5%, ça, on pourrait dire bon, c'est le choix du seuil ou c'est... l'instrument de mesure qui n'est pas fiable ou ceci, cela, mais là, entre 38 et 70, c'est quand même plus que net. Donc, il y a une progression spectaculaire qui ne tient pas au niveau d'imposition, parce que le niveau d'imposition global progresse à peu près exactement au même rythme que la population. Donc, ce n'est pas que l'État, globalement, demande moins d'argent, hein. C'est pas ça, c'est bien la répartition de l'impôt, l'assiette, qui est en jeu. Et parallèlement à cette flambée de la catégorie la plus basse, ceux qui payent moins d'une livre, donc les pauvres, hein, qui, eh bien, il y a une disparition tout aussi nette des classes moyennes, des classes intermédiaires, argent, et surtout des catégories moyennes inférieures. Voilà. Et donc, c'est un mouvement de paupérisation qui a été observé, alors c'est pas en fait follement original, dans des tas de régions en France où, à la grande époque des études sociales des années 70, des monographies régionales, on a une liste, une page, je pourrais vous en sortir une page entière, de grandes monographies qui décrivent un mouvement d'appauvrissement de la paysannerie. Alors, pas toutes les régions, hein, on est bien d'accord, mais dans énormément de régions, au 18e, il y a une paupérisation et un glissement, une polarisation sociale, un glissement des couches moyennes intermédiaires inférieures vers le bas, un peu plus bas, et un enrichissement de la tranche la plus haute, et donc une polarisation, voilà, en un mot, bon, qui ne sera pas forcément retrouvée ailleurs en Normandie. Hein. Argence est Argence. Et il n'est pas absolument certain que ça se retrouve ailleurs. Mais enfin, Argence, même dans son exceptionnalité, dit quelque chose. Pourquoi tous ces migrants pauvres sont venus à Argence? Ça, c'est, ils viennent de quelque part, hein, tous ces habitants. Alors, il n'y a aucune activité nouvelle qui émerge. Il n'y a pas de proto-industrie. Il y a bien quelques bouchers qui s'installent. Les boucheries ferment un peu à Caen. Et on voit les abattoirs surgir à Argence. Alors en même temps, il y a un petit peu de... Il y a justement les bourreliers, les travailleurs du cuir qui, derrière, prennent également un petit essor à Caen. Bon, il y a ça qui a joué. Donc ça fait venir des artisans. Il y a encore d'autres. C'est très bien situé. Argence, c'est sur la route de Paris. C'est très passant. Il y a des commerces. Il y a un marché qui est actif. Il y a plein de petites choses qui font qu'Argence attire quand même de l'activité, attire des migrants. Mais comme c'est malgré tout le terroir est médiocre, et qu'il n'y a pas vraiment d'industrie rurale là, qui prend un essor sérieux, ben, c'est un flux, c'est un peu un miroir aux alouettes. Ils vont tous à Argence, mais personne ne s'y enrichit vraiment. Ils vont là, et ils vont là surtout parce qu'ils ne vont plus ailleurs. Et parce que parallèlement, on voit les courbes d'immigration, Argence augmente quand Caen et Bayeux baissent. En fait, il y a un déplacement. Avant, les migrants, les déracinés de la plaine de Caen, ils allaient soit à Caen, soit à Bayeux. Mais au moment précis où Argence monte, on voit les courbes baisser à Bayeux et à Caen. Donc, on peut supposer que c'est une destination par défaut, une attractivité par défaut qu'a vécu Argence. Et il y a l'attractivité fiscale, parce que malgré tout, l'imposition est basse. Argence est plutôt bassement imposée, et ça a dû jouer également. Voilà, donc comment j'interprète cette arrivée massive de migrants? Mais il n'en demeure pas moins que c'est des migrants pauvres. Et que ça veut bien dire quelque chose. Il y a d'autres travaux qui montrent la montée aussi du vagabondage en Normandie, hein, à la fin du 18e. Dans les dépôts de mendicité, à la fin du 18e, c'est bondé. Hein, il y a flot de mendiants, hein, en pleine de camp. Donc il y a bien une pauvreté. Hein, ce n'est pas une pure invention. Voilà. Il y a des indices.